Ce matin, j'ai choisi en fait un des textes qui était proposé à l'ensemble des communautés hein, dans l'année liturgique. Donc il y a toujours trois ou quatre textes qui sont proposés. Et donc je me suis essayée à choisir un des textes et puis voir un petit peu ce qu'on peut retenir de ce qui nous est dit dans ce passage. Donc en fait, c'est dans l'évangile de Luc au chapitre 3. Du verset 10 au verset 18. Alors dans l'année liturgique, que ce soit protestante ou catholique, l'année liturgique commence avec le temps de l'Avent. Donc bonne année, puisqu'on démarre notre année liturgique. Et j'ai eu à cœur de choisir un texte qui était donc dans ces propositions en me disant que c'est peut-être aussi l'occasion pour nous de prendre conscience qu'un peu partout, en France, d'autres chrétiens sont en train de réfléchir et de méditer sur ce passage. Je me suis aussi largement inspirée d'une prédication d'un pasteur qui s'appelle Bernard Mouroux, que j'ai trouvé sur le site de l'EPUF, puisqu'il y a une banque de données, et je me suis permise de m'inspirer de ce que lui avait déjà écrit dessus et médité. Avant qu'on lise donc le passage, juste pour vous rappeler, le passage il est coincé entre le récit de la présentation de Jésus au temple et puis l'appel de Jean-Baptiste à la repentance. Et juste après, le passage qu'on va lire, il y a le baptême de Jésus. Donc au chapitre 3, on va lire du verset 10 au verset 18. Les foules, donc c'est à Jean-Baptiste qu'il s'adresse, les foules lui demandèrent alors « Que devons-nous faire ?» Il leur répondit « Si quelqu'un a deux chemises, qu'il en donne une à celui qui n'en a pas. Si quelqu'un a de quoi manger, qu'il partage avec celui qui n'a rien. » Il y avait des collecteurs d'impôts qui venaient se faire baptiser. Ils demandèrent à Jean « Maître, que devons-nous faire ?» « N'exigez rien de plus de ce qui a été fixé, leur répondit-il. » Des soldats le questionnèrent alors aussi. « Et nous, que devons-nous faire ? N'extorquez d'argent à personne et ne dénoncez personne à tort. Contentez-vous de votre solde. » Le peuple était plein d'espoir et chacun se demandait si Jean n'était pas le Messie. Il leur répondit à tous. « Moi, je vous baptise dans l'eau, mais quelqu'un va venir, qui est plus puissant que moi. Je ne suis même pas digne de dénouer la lanière de ses sandales. Lui, il vous baptisera dans le Saint-Esprit et le feu. Il tient en main sa pelle à vanner pour nettoyer son aire de battage, et il amassera le blé dans son grenier. » Quant à la balle, il la brûlera dans un feu qui ne s'éteindra jamais. Jean adressait encore beaucoup d'autres recommandations au peuple et lui annonçait la bonne nouvelle. Que nous faut-il faire ? Lorsque Jean-Baptiste commence son ministère, les gens sont dans l'attente. Ils sont aussi dans l'incertitude, dans la peur et dans la crainte. Jean-Baptiste, juste avant, prêche aux foules le baptême de la repentance en vue du pardon des péchés. Et donc, il y a certainement à ce moment-là de l'histoire un désir largement répandu de faire la volonté de Dieu, de se tourner vers Dieu, de trouver en Dieu son secours. Ces gens semblent être dans de bonnes dispositions spirituelles à ce moment-là. À partir de là, tout devient possible. Tant d'attentes pour ces gens-là, pour ceux qui écoutent Jean-Baptiste, mais pas une attente infertile, une attente remplie d'espérance pour eux. Et cette espérance, elle est basée sur les promesses prophétiques. Ils savent des choses et ils savent que leur attente va être, entre guillemets, récompensée. Ce n'est pas un hypothétique « oui, ça ira mieux demain ». Trois catégories de population sont auprès de Jean-Baptiste et lui posent cette question. Que nous faut-il faire ? Dans un premier temps, il y a la foule. La foule demande : que nous faut-il faire ? Jean-Baptiste répond : partage de vêtements et de nourriture. Les collecteurs d'impôts demandent : que nous faut-il faire ? Jean-Baptiste répond : justice sociale et honnêteté. Les soldats, auditeurs inattendus hein, à cet endroit-là, répondent, demandent : que nous faut-il faire ? Et Jean-Baptiste répond : absence de violence et contentement. En d'autres termes, on a là pas seulement le peuple juif qui cherche à faire la volonté de Dieu, qui se pose cette question : que nous faut-il faire ? Mais une foule de gens, des profils inattendus, variés, qui sont pour certains dans une situation délicate parce qu'ils collaborent avec l'Empire romain qui sont en train d'oppresser le peuple. Et pourtant Jean-Baptiste les accueille. Ils sont considérés par certains comme des traîtres, des ennemis du judaïsme, des ennemis du peuple. Ils sont mal vus et pourtant Jean-Baptiste les écoute et répond à leurs inquiétudes. Ils ont une soif de changement. Alors je me suis dit, est-ce que ces collecteurs d'impôts, ces soldats, est-ce qu'ils ont mauvaise conscience ? Peut-être, c'est possible, c'est même probable. Et puis, je me suis dit, mais la mauvaise conscience finalement, est-ce que, là pour le coup, elle n'a peut-être pas que des effets négatifs parce qu'elle les pousse à se questionner. Elle les pousse à s'interroger et à faire un retour sur eux-mêmes. Alors, le retour sur soi, c'est le premier sens du mot repentance. Et la période de l'Avent, c'est une période privilégiée, je trouve, si tant est qu'on veuille y en rentrer, pour s'interroger sur soi-même. Et les soldats, les collecteurs d'impôts, la foule, elle est tiraillée, en fait, entre des choses que nous, on connaît bien aussi. Elle est tiraillée, que nous faut-il faire ? Ben oui, elle est tiraillée entre ce que je veux, mes désirs, mes projets, mes ambitions, ce que je peux, physiquement, intellectuellement, matériellement, et puis ce qui s'impose à moi, les saisons, le travail, les décisions de l'État, l'oppression du gouvernement romain, et on est tiraillé. Et dans cette trajectoire de croissance, le peuple, les soldats, la foule, les collecteurs se posent, vont à la rencontre de Jean-Baptiste et lui posent cette question plein d'espoir. Que devons-nous faire ? Alors, vous vous rappelez que Jean-Baptiste, il est quand même décrit, enfin en tous les cas, c'est comme ça qu'on peut le comprendre, comme un homme assez rude, qui ne mâche pas ses mots, hein, il les bouscule quand même. C'est un homme qui est habitué à la solitude. En tant que prophète, il a un langage sans détour. Et effectivement, il leur dit franchement les choses. Sans détour, il adapte sa réponse à son public toutefois. On l'a vu, hein, son propos, ce n'est pas un propos passe-partout finalement. Il s'adresse bien à chacun des trois groupes de personnes qui lui posent cette question. Et à chacun, il vient les retrouver dans leur situation réelle, dans leurs propres préoccupations. Une réponse individuelle à une question universelle. Que dois-je faire ? Aux collecteurs d'impôts, ils demandent de faire honnêtement son travail, hein, sans abuser de leur position. Aux soldats, on l'a vu, ils demandent aussi de faire honnêtement leur travail sans exercer de violence ni raquette. Jean-Baptiste y pose donc des mesures qui sont extérieures, des considérations pratiques, très concrètes, qui, à première vue, semblent faciles à mettre en œuvre. Appliquer la loi, être honnête. Mais en disant cela, il reconnaît aussi finalement l'impuissance et l'incapacité de l'homme à respecter cette loi divine toute simple de justice sociale, d'honnêteté, de partage. Jean-Baptiste présente ici la loi ou la façon de la suivre comme un moyen finalement de faciliter les relations entre les hommes. Et la foule qui posait les questions, les collecteurs d'impôts, est-ce qu'ils attendaient vraiment une réponse très concrète ? Est-ce qu'ils n'attendaient pas quelque chose d'autre, quelque chose de plus spirituel ? Quelque chose qui allait les sauver, changer leur vie ? Jean-Baptiste lui répond par des choses très concrètes. Il s'agit de revenir à la loi, premièrement, de l'appliquer, la loi de Dieu qui est faite pour qu'on puisse vivre en paix, ensemble, en vivant dans la droiture et l'honnêteté. Alors, Jean-Baptiste, c'est certainement qu'il n'attend pas un renversement politique, lui. Hein. Et Jésus ne dira pas autre chose, d'ailleurs. Hein. La foule attend un Messie triomphant, un Messie qui prendrait le pouvoir, qui pourrait rétablir l'indépendance d'Israël. Mais, comme Jésus, Jean-Baptiste, lui, il est respectueux, en fait, de l'ordre dans lequel il vit, de l'ordre établi. Il a compris que l'enjeu n'était pas là. Il intime à la foule de vivre dans leur temps, avec les oppressions qui sont là, dans leur époque, en respectant la loi divine. Mais en donnant ces considérations pratiques, on voit bien qu'il manque quelque chose. Alors Jean-Baptiste s'essaye à dire la nouveauté que tous attendent. Oui, tous attendent, lui et les autres, une nouveauté qui va s'incarner en la personne de Jésus-Christ. Le Messie va mettre dans le cœur de l'homme, dans son intimité profonde, cette capacité à vouloir autre chose que son propre intérêt, à modifier ce que je veux du début en ce que Dieu veut. Et même si Jésus rejoindra Jean-Baptiste sur la question du pouvoir politique, il aura un message radicalement différent. Jésus ne demandera pas une application réaliste de la loi. Il se livrera à une radicalisation de la loi, de sorte que la loi, elle sera plus applicable par personne, au cas où on en aurait douté. Jésus se placera lui-même au-dessus de la loi. Il proclamera la purification sans condition des péchés, si ce n'est celui de la repentance, sincère. Et là, on touche la nouveauté. C'est pas un hasard si les textes de l'Avent proposent ce passage de Jean-Baptiste. Parce que le ministère de Jean-Baptiste, il prépare la venue de Jésus et il est incontournable pour comprendre ce que c'est cette nouvelle révolution de vie que Jésus va mettre dans le cœur de l'homme. Jean-Baptiste, il souligne à la fois la continuité. Jésus inscrit son ministère dans son époque et dans le ministère de Jean-Baptiste, et la radicale nouveauté par rapport à la loi. Jésus lui annonce la grâce, le salut par la grâce seule. Et nous y voilà. Dans cette trajectoire de croissance, la foule, les soldats, les collecteurs d'impôts, Jean-Baptiste, dans cette trajectoire-là, va placer un nouveau tournant qui s'appelle la grâce. Ce nouveau tournant va s'incarner en Jésus. Alors, que nous faut-il faire, nous, aujourd'hui? Si on posait cette question à notre tour, je pense que vivre dans la droiture et l'honnêteté, c'est une réponse adaptée. Elle est pertinente encore pour nous aujourd'hui. Elle l'est, mais dans la mesure seulement où elle est un préalable à ce chemin qu'on offre à Jésus pour qu'il puisse venir jusqu'à nous. Elle est un signe de cheminement vers le Christ. Cette période de l'Avent peut être l'occasion pour les uns et les autres d'aller à la rencontre, toujours à nouveau, de ce Jésus qui donne la réponse à ce que dois-je faire. Que dois-je faire ? Accepter que la grâce et la grâce seule nous rejoint, nous sauve, transforme nos vies et celles de nos voisins. Et quel est le signe finalement de ce renouveau de vie en nous ? Est-ce que c'est parce qu'on se conduit avec droiture ? Parce qu'on pratique la justice sociale ? Est-ce que c'est ça le signe de ce renouveau de vie ? Non, le signe de ce renouveau de vie, c'est très certainement la transformation. Et cette transformation, elle prend le symbole d'un enfant. C'est une naissance en nous. Et un enfant, au début, il est tout fragile. On l'attend. C'est notre attente, cette naissance en nous. Fragile au départ, et puis, petit à petit, appelé à grandir, à s'affermir, à se fortifier et à se développer. La grâce de Dieu qui vit en nous. Que nous faut-il faire ? Eh bien, peut-être aussi simplement nous laisser toujours à nouveau toucher, transformer, encore et toujours, par la grâce de Dieu. Retrouver le chemin de la repentance, se mettre à genoux. Car aujourd'hui, on n'est ni plus ni moins que comme ces collecteurs d'impôts, ces foules. On se demande encore et toujours, que nous faut-il faire ? Alors avec humilité, se mettre à genoux et accepter cet enfant qui vient et qui va révolutionner nos vies. Parce que l'espoir est là, mais avec une différence certaine, pas juste un espoir en se disant « ça ira mieux demain ». Non, c'est un espoir qui se nourrit d'une espérance, et cette espérance, elle nous est donnée aussi par les prophètes, par tous les écrits qui nous ont été laissés, et par les gens qui nous ont précédés, les gens qui ont témoigné de leur foi, et qui nous témoignent que l'espérance, elle vaut encore le coup d'être partagée aujourd'hui. Encore plus que jamais, comme à chaque époque, j'imagine, mais peut-être en ce moment, peut-être plus marqué, nous avons besoin de cette grâce pour partager, pour nous fortifier et surtout, je pense, pour nous équiper. Afin d'être, oui, porteurs d'espérance dans notre quartier, dans notre ville, dans notre travail. Hier, on était à FBSE et Anna Sommer, hein, qui a une église d'implantation avec son mari à Pontarlier, nous disait « Cultivons l'esprit village dans nos églises. Commençons déjà par faire ce qu'on a à faire là où on est et surtout par briller de cette espérance qui est en nous. » Oui, parce qu'encore aujourd'hui, dans ce monde, on se demande, et beaucoup se demandent, que nous faut-il faire ? Alors acceptons d'être touchés par la grâce de Dieu et acceptons aussi d'être des porteurs d'espérance avec ce qu'on est, avec nos limites, mais porteurs d'espérance dans un monde qui en manque. Merci.